Bienvenue à la French Connection épisode 121. Nous revenons encore en très peu de temps parce que ça a l'air que les fuites d'informations, c'est la mode. Il y en a un à l'infini. Et pour cette fois-ci, je suis avec Steve.
Bonsoir tout le monde.
Et Patrick.
Salut Nick, salut Steve.
Et nous allons profiter explicitement pour parler de ce qui est dans l'actualité québécoise, c'est-à-dire que l'actualité aurait eu une fuite d'informations, sur laquelle des informations ont été diffusées publiquement sur Pastebin pour le grand plaisir de tout le monde. Donc, je vais, messieurs, lever la main et prenez la parole.
Je vais m'avancer là-dessus, justement. Merci, Nick. Hier après-midi, donc une belle journée ensoleillée de dimanche, évidemment j'ai rien à faire, fait que donc je feuilletais les internets et j'ai tombé donc sur le fait d'avoir découvert cette diffusion d'informations sur Pastebin qui avait une connotation très intéressante parce que c'était intitulé l'actualité.com.txt. Sachant que l'actualité, ben oui, c'est un magazine de chez nous et donc en allant visiter le contenu de ce text file-là, c'était très intéressant de découvrir qu'il y avait effectivement un paquet d'informations, à ma foi, véridiques, qui semblaient véridiques parce que c'est des numéros de téléphone, des adresses qui étaient pleinement vérifiables à partir de simples recherches, à partir de moteurs de recherche conventionnels. Et après coup, j'ai immédiatement contacté les amis de HackFest pour qu'on puisse faire une double vérification et non pas d'un coup de tête dire « Hey, c'est ça, puis c'est pas vraiment la situation. » Fait que merci Pat et merci Nick de ce coup de main parce que de cette façon-là, ben, on a brossé quand même le pommier, je pense.
En fait, quand t'as envoyé le tout, Steve, on était en train d'enregistrer l'épisode 120 dans un bar, parlant justement des fuites de données et aussi de l'autre insider threat là, de la GRC. Et évidemment, quand t'as envoyé ça, on s'est mis à analyser ça rapidement et on s'est bien aperçu que la liste était réelle. Donc, j'ai tweeté ça. Mis ça sur Facebook, mis ça sur LinkedIn. Ça l'a explosé en termes de visibilité, d'interaction de personnes qui ont jumpé sur la nouvelle. Mais le problème, c'est la réponse de l'actualité qui est arrivée hier en après-midi, où le rédacteur en chef sur Twitter a commencé à s'astiner que la brèche était fausse, comme quoi que ce n'était pas une brèche valide, qu'il n'y avait pas de mot de passe dedans. Puis que finalement, c'était pas grave, c'était des users et des passwords, il vient dire qu'il n'y avait pas de password, là, mais qu'il y avait des users et des passwords d'un ancien site web non existant. Donc, puisque le site web est non existant, ben, évidemment, la brèche est inutile et les données sont inutiles, right? Non, parce que la brèche contenait aussi des adresses, des numéros de téléphone, la date de naissance, le sexe de la personne, le nom, et évidemment, le courriel. Donc, même si le user password ne fonctionne pas sur leur nouveau site web, ben, c'est toutes des données qui sont très utiles à des pirates. Puis, il faut le dire, ben, la fuite qui a été mise sur Pastebin, on a commencé à faire des recherches pour en parler à notre ami Damien en Europe qui est sur le podcast souvent avec nous et qui nous a informé que cette brèche-là, il était au courant depuis avril 2019, qui avait contacté l'actualité à quelques reprises, au, je ne sais pas le nombre de fois, mais au minimum une fois en avril pour leur en faire mention et n'a jamais, jamais eu de retour. Ce qui est drôle par la suite, là, si vous allez regarder toute la liste des tweets, c'est qu'il y a une mention du chef, du rédacteur en chef, comme quoi, qui ont déjà eu une liste de données comme ça, de fuite, puis que c'était une fuite bidon avec des données bidon dedans. Donc, techniquement, je crois que le lien, ben, c'est ce que Damien avait rapporté. Mais là, les choses se compliquent avec la réponse aux médias plus tard, parce que après avoir dit que la fuite était fausse et tout, le rédacteur en chef m'a même écrit, répondu à un de mes tweets me disant « Valide tes choses comme du monde avant de faire des fausses nouvelles. » Un petit peu insultant, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Steve?
Et pendant ce temps-là, oui, moi j'avais semé la nouvelle parmi les contacts médias et tous étaient surpris de voir justement arriver cette nouvelle-là et en voulaient en redemander pour connaître le fond de l'histoire. Et quand, que le, comme tu dis, Pat, la réponse est arrivée de l'actualité, ben immédiatement, il y en a qui ont gelé sur place et beaucoup de commentaires ont commencé à être générés pour dire « Oups, qui qu'on croit, c'est quoi qui se passe? » Et déjà là, il y a un article dans la presse qui a paru en fin d'après-midi dimanche disant que c'était une fausse alerte, donc prenant au mot le président de l'actualité, l'éditeur en chef de l'actualité, pour dire que c'était une fausse nouvelle.
Rien, là, c'est important de le dire. Ils ont pris au mot,
oui, tout à fait,
sans regarder le fichier texte, sans nous parler. Ils ont juste dit « Ah, ils disent que c'est faux, ça doit être faux », puis ils ont publié ça. L'article est en ligne environ 50 minutes, je crois.
Oui, parce qu'après avoir fait une conversation agréable avec la journaliste, j'ai expliqué donc le fondement de l'histoire, expliqué les démarches qu'on a faites, puis finalement, elle a compris, mais d'autres journalistes avec lesquels j'ai parlé, là, elle été en profondeur sur la nature de cette information-là, bien, ils ont compris que, OK, c'est sérieux, ce sont des vraies données, ce sont des vraies personnes qui sont en situation de perte d'information, autrement dit, qui est leurs informations compromises. Et on a eu encore là d'autres journalistes qui ont embarqué tout de suite, ils ont écrit leur texte, puis l'article original a paru tel que. Et heureusement, justement, je dois saluer la journaliste de la presse qui a eu quand même l'audace de retirer son article et de republier lundi matin avec justement les faits qu'on a rapportés. Et quand on parle de faits, c'est vraiment l'état des données qui proviennent de où et qui, à ce moment-là, était véridique en termes de c'était pas des fausses données, autrement dit. Hein?
Non, exact. Puis tu sais, la manière qu'on l'a vérifié, c'est que dans les données, ben il y a des courriels puis il y a des numéros de téléphone. Voilà. Fait que j'ai appelé les personnes. Donc, quand l'actualité a commencé à dire que c'était faux, puis que j'ai répondu que ben vous direz ça à vos personnes qu'on vient d'appeler puis qui nous ont confirmé que la donnée était vraie, ben, c'est là qu'il y a eu un silence radio là, puis que tout a changé de côté, puis qu'eux aussi, finalement, et les médias sont allés faire des appels téléphoniques, des courriels, etc., puis qu'ils ont validé que la liste était réelle. Donc, quand même spécial comme réaction, faut le dire. Je m'attendais pas à me faire dire « Pat, tu fais des fausses nouvelles ». Surtout, le pire dans ça, c'est que le commentaire de la fausse nouvelle est arrivé tout de suite après un tweet que je leur ai dit « Je suis disponible pour parler avec vous par téléphone ou autre pour qu'on discute, voir du risque et tout. Tu » sais, parce qu'il y avait l'air d'avoir une incompréhension, c'est quoi un mot de passe, parce que les mots de passe n'étaient pas en clair, sont encryptés. Puis sont encryptés dans un format qui est devinable assez facilement, qui est le format de WordPress. Donc, c'est du MD5 là, encrypté en MD5 8000 fois à peu près, avec un salt intégré. Et donc, visuellement, c'est pas un mot de passe, c'est du garbage. Donc, pour eux, il n'y avait pas de mot de passe dans le fichier. Donc, il a fallu leur expliquer ça. Je leur ai dit, hey, on devrait se parler à la place là, de faire 50 tweets. Puis finalement, ça a viré plus, hein, tu dis, de n'importe quoi. Et il n'était pas content. Donc, la gestion des incidents, mettons, est un petit peu différente de Desjardins, si on peut dire.
Oui, tout à fait. Mais au moins, il y a eu une interaction. Moi, je suis content de ça, Pat. Mais c'est vraiment pas un exemple de gestion de crise exemplaire. Parce que tout de suite, en partant de nier que des données qui lui ont appartenu, là, je veux dire, c'était marqué long comme le bras, mais que ça provenait quand même d'une autre époque, semble-t-il. Il reste pareil, il faut que les entreprises soient responsables de leurs données, puis si jamais ça ne les appartient plus, il faut qu'ils soient en mesure d'en disposer correctement et non pas de dire, bon, c'est des vieilles données, ça n'a pas d'incidence. Aujourd'hui, au 21e siècle, les données qui soient de 10 ans ou de 5 minutes, il y a une incidence qui peut être utilisée justement dans tous les contextes où on parle, et surtout, si tant que le chiffrement qui est dans cette base de données-là, c'est pas tout ce qu'il y a de nec plus ultra, ben c'est certain qu'il va y avoir des impacts pour que les gens, on sait que les gens utilisent souvent le même mot de passe partout. C'est fort possible que si on fait une coupe d'essai, les méchants vont le faire, en tout cas. Si les gens, s'ils sont pas avisés de changer le mot de passe, ben ils risquent de se faire pirater d'autres affaires, d'autres plateformes, d'autres médias sociaux, en tout cas. C'est quelque chose qui a été vu dans le passé.
Non, tout à fait. Puis tu sais, faut revenir un peu sur la brèche. Tu sais, l'incident de sécurité date de 2016 ou avant. Fait que la base de données qui a été leakée est vraiment vieille, mais ça ne veut pas dire, comme tu viens de dire, que les mots de passe ne sont pas réutilisés pour ces personnes-là sur leur courriel, sur d'autres sites web et autres, parce que si on fait une petite recherche dans la liste, on voit qu'il y a des courriels du gouvernement provincial, fédéral, il y a des entreprises, des universités. Puis on le sait, là, la majorité du monde vont réutiliser des mots de passe, donc c'est critique de parler de ça. Sur LinkedIn, il y a eu beaucoup de commentaires. « Ah, c'est encrypté avec WordPress, avec des salts. Ça se craque pas, blablabla. Bla, » bla. Donc, évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un de nos collègues au Hackfest, Vince, qui a parti un cracking de mot de passe sur un seul GPU à 1500 MHz ou 1000 MHz, c'est ce que je vois ici. Ça fait 30 minutes que le tout est exécuté, exactement quand on se parle là, à l'instant du podcast. Il y a 367 sur 3172 passwords qui ont été craqués en 30 minutes. Donc, on repassera sur le fait que les mots de passe ne se trouvent pas. Puis malheureusement, ils se trouvent parce que c'est des mots de passe simples. C'est pas des passphrases, c'est pas des 20 à 50 de long, c'est des 8 à 10. T'sais, j'en vois devant moi, là, le password est là, Ferrari, Cherokee, Thunder.
Et... Hey, on va faire un top 10, ça va être intéressant de présenter
oui,
sur
oui, tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Yeah!
Et je le vois ouais, plusieurs c'est... fois dans les 100 premiers.
Incroyable.
Clémentine, Pepsi 13. Il y en a plein des choses comme ça. Là, je les ai pas associés au nom de la personne, fait que je sais pas si c'est le nom exact de la personne. Là. Mais en même temps, de voir ce genre de mot de passe-là, encore et encore, on voit que c'est le problème. Il faut que les mots de passe disparaissent. Là. Ça, c'est un autre sujet, mais faut le dire, là, cette liste-là est disponible dans le Black Market depuis avril. A été volée le plus que 3 ou 4 ans. Donc, ces mots de passe-là ont été utilisés pour sûrement faire du phishing, des attaques et autres. Ça a été revendu. Là, c'est quelqu'un qui a mis ça sur Pastebin parce qu'il devait trouver que sa liste était inutile, qu'elle datait de 4 ans. Mais on s'entend qu'il y a un impact pareil avec les numéros de téléphone, faire du social engineering, les adresses et autres. Il y a un réel impact.
Oui,
puis ce qui est dommage, c'est la réponse, ou plutôt le suivi que l'actualité en a fait, parce qu'on a réussi à avoir le courriel qu'eux ont envoyé aux personnes affectées. Puis on pourrait mettre un screenshot de ça aussi mais dans les show notes. Mais ils disent pas grand-chose. Ils disent simplement « Nous communiquons avec vous car cette liste contient votre nom et les informations fournies lorsque vous êtes inscrit pour commenter des articles du site à l'époque, donc en 2016. » Fait qu'ils disent pas plus.
Mais Pat, t'as-tu eu contact avec les gens pour dire depuis que 2016, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce dataset-là?
C'est la partie qui manque. On sait pas si ça a été supprimé correctement parce que entre 2016 et aujourd'hui, ben, la compagnie a été vendue à une entreprise. Fait que c'est Rogers qui l'avait. Aujourd'hui, c'est Mishmash, quelque chose comme ça. Je suis désolé pour le nom. Communication qui ont réussi à obtenir cette entreprise-là. Donc, on ne sait pas si les données ont été transférées. Peut-être qu'il y a un backup qui existe encore. Peut-être que ça n'a pas été supprimé. Mais ça reste que ça provient d'un site web WordPress de ce temps-là. Mais ils utilisent encore un site web WordPress aujourd'hui. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont aller s'essayer sur ça en considérant que les mots de passe sont peut-être encore égales aujourd'hui. Là. Sûrement plus là, mais c'est là 2 semaines, mettons. Donc, côté réaction puis suivi, c'est dommage dans le sens qu'ils disent même pas le contenu exact de qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la liste, dans le courriel envoyé à tous. Puis dans ce qu'on a reçu de certaines personnes, ils ont dû faire un suivi plus approfondi pour savoir exactement la donnée qu'il y avait dans la brèche qui les concernait. Certaines personnes ont des numéros de téléphone, des adresses, d'autres non, d'autres oui. Et la majorité ont la date de naissance. Puis pour avoir parlé à plusieurs personnes, la majorité du monde disent « Ben, j'ai commenté sur ce site web-là, mais j'ai jamais mis ma date de naissance pour faire un commentaire sur un WordPress. » Ça n'a pas de sens. Donc, exact. Ça veut dire qu'il y a un flou sur la provenance de la donnée, considérant que la date de naissance et puis le sexe est là pour tout le monde. Donc, techniquement, c'est peut-être ce qu'on vient de dire, c'est peut-être même pas la vérité sur la brèche, puis peut-être que même l'actualité n'est pas certaine.
Fait que oui, il va y avoir à ce moment-là une autre double vérification, mais encore là, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a, puis malgré que la liste originale, on savait qu'il y avait 68 604 noms. Ça, c'était des comptes bizarres weed, des bot accounts que vous aviez remarqué. Ouais.
Ben dans le fond,
ça, c'est la liste originale qui a été épurée à 3177 noms. Même à ça, dans les 3000, il y en a quand même des comptes inutiles. Là, puis ça revient à peu près à un round-off de 3000 noms.
Exact. Il y a quand même des comptes bidons. Parce qu'il faut le dire, la première brèche de 68 000 lignes qu'on a réussi à avoir la main dessus parce qu'elle existe encore sur le dark web, est encore disponible à downloader, c'est que le site web, dans le temps de 2016, leur site, puis ça provient d'une source là, avec qui on a réussi à parler à l'intérieur de l'actualité, leur site permettait de faire une inscription manuellement sans autorisation interne de l'actualité sur WordPress. Donc, tu faisais créer un compte, puis tu avais un compte d'accès à l'intérieur. Et évidemment, tous les spam bots puis les robots... peu importe leur objectif, mais ils ont créé des tonnes et des tonnes de comptes. Puis quand on voit le 68 000, tu vois comme les 3000 premiers comptes que les données sont très random, puis qu'il y a des dates de naissance, il y a plein de choses. Puis après ça, ben, c'est tous des comptes similaires. T'sais, c'est un nom avec des chiffres, presque tout le même domaine name là, de courriel. Fait que tu vois que ça a été fait à cause de des robots. Et Damien, ce qu'il nous a envoyé dans sa recherche, c'est que quand lui a trouvé ces listes-là au début de l'année, bien, il y avait une explication du pirate qui les a downloadés avec. Puis l'explication est que la liste de 68 000, c'était des robots, puis lui, il a fait un filtre à 3 000. C'est pour ça que c'est le 3 000 qui reste aujourd'hui. Donc, on a même l'explication du pirate dans nos preuves. Puis l'actualité essaie encore là, de dire qu'il n'y a pas vraiment d'impact, puis c'est pas très grave, là, ce qui est très dommage.
Même plus loin que ça, j'ai parlé avec une personne donc, chez Mishmash, qui, eux autres, ils disent que c'est la première fois qu'ils entendent parler de ça. C'est un peu pour la raison qu'il y avait cette approche-là de vraiment de personnes fâchées de la situation. Mais en même temps, quand j'ai expliqué qu'il y a un peu, là, il y a eu une divulgation proactive, responsable de la part de Damien, en expliquant que c'est un reporter français, il n'y a jamais eu de retour de personne. Fait que là, je vais lui donner le nom de. Je vais demander à Damien avec quelle adresse il a communiqué pour savoir avec qui il a échappé à la balle. Parce que si c'est vraiment le cas, à l'intérieur de l'actualité, que, comme on disait, Patrick, si c'est en haut de hiérarchie, que personne qui a pris action parce qu'il n'y avait aucune idée de ce que la personne lui soumettait, ils ont discarté. Puis les gens à l'informatique, ben, ils en ont jamais su quoi que ce soit. Ouais, fait que c'est pour ça, d'après moi, que. C'est l'être mort, mais ça va être intéressant de le suivre pour être capable de faire la lumière là-dessus, parce que c'est pas vrai que les actions concrètes qui ont été portées, que ce soit un figment imaginaire, puis ça, encore une fois, je le redis, on l'a prouvé plus qu'une fois, fait que on n'est pas fou dans notre approche,
je pense. Non, exact. Puis je pense que ce qu'il faut retenir en termes de leçon de tout ça, c'est que la manière que ça a été géré, ben, les entreprises qui vont avoir une fuite dans l'avenir, je pense que c'est la liste de choses à pas faire, c'est ça. C'est un peu plate à dire, là, mais l'approche n'a pas été bonne. Là.
Ah ouais. Ben c'est, non, il faut le dire. Parce que c'est une éducation corporative, malheureusement. Je le vois comme ça parce que Christy, c'est pas la première fois. Puis là, regarde, là, j'ai mis dans un contexte, là, puis c'est ça, j'ai parlé un peu dans les médias aujourd'hui. Il y en a pour qui ça va être la quatrième, peut-être, fuite d'informations qui nous arrive. Après Desjardins, Capital One, possiblement quelqu'un qui travaille chez Revenu Québec, possiblement quelqu'un qui a un produit d'assurance chez Industriel Alliance. Là, cette fuite-là.
Honda.
Tu sais,
vas-y.
Ben oui,
Honda en plus.
C'est peut-être 6, là. Hey, c'est capotant. Fait que on parle juste de notre contexte local, imagine. Là. On ne fait pas ça globalement sur la planète. On fait juste notre contexte local. Puis, il y en a qui ont pas tort à comprendre que la menace, elle est là, là. C'est ça qui se passe. Faites vos devoirs, messieurs, dames, les corporations. Faites la vérification de comment est-ce que vos systèmes sont organisés.
Ben. Oui, il y a déjà là, effectivement, le fait que tu dis que les corporations doivent nettoyer leur système. Ça, c'est une très bonne chose. Mais par ailleurs, c'est inévitable. Il y a des fuites, il va en avoir, il va en avoir encore à l'avenir. Et ce que je trouve le plus malheureux dans le cas de l'actualité, puis vous l'avez largement dit, c'est l'incapacité à gérer la fuite et de juste dire, attendez, on va vérifier ou puis la réaction que j'ai vue sur Twitter, c'était un déni automatique. Non, 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 ça se peut pas, nanana, ça n'existe pas. Au lieu de dire, hey, oh, minute, on va prendre connaissance, on va chercher, on va faire nos devoirs, puis à ça, on va aller de l'avant. Fait que, tu sais, en termes de gestion de la crise, juste ça, c'est un petit peu poche, mettons. Puis de là, puis j'ai beaucoup encensé Desjardins parce qu'on a été beaucoup dans la communication, dans l'ouverture, dans ces choses-là. Ben là, on a le contre-exemple de Desjardins dans la fermeture, le déni complet. Puis ce qui est plus fâchant pour eux autres là-dedans, c'est qu'ils ont publié un communiqué pas longtemps après qui a confirmé ou qu'en fond, qui a dédié leur éditeur, leur éditeur en chef. Fait que tu sais, c'est comme, avant de parler, avant d'assurer sa nouvelle, ça veut juste dire, minute, on vérifie, ça fait pas mal.
Non, c'est sûr. Puis ce qui est dommage, c'est que la personne qui a répondu est techniquement pas en lien avec les ressources informatiques. Tu sais, je vois pas pourquoi quelqu'un qui est rédacteur en chef devrait avoir accès aux brèches de sécurité puis avoir toute l'information dans sa tête là-dessus sans faire aucune vérification, comme tu viens de dire. Fait qu'il y a vraiment eu un manque de jugement, oui, mais une gestion de crise totalement...
Une réaction à vif qui a voulu encore là protéger...
Ouais, c'est dommage. C'était plus émotionnel que... C'était émotionnel, là. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier rien. Puis quand je leur ai dit, ben là, tu sais, c'est parce qu'on a parlé aux personnes au téléphone, ben ils ont dit, oups, je pense qu'il faudrait vérifier nos choses. Mais ça n'aurait pas dû être dans ce sens-là. Ça aurait dû être dans le sens inverse. Et c'est frustrant parce que, tu sais, si on revient au concept que tu viens de dire, Steve, que ça fait 6 brèches durant un été au Québec, c'est 6 brèches publiques dans les médias parce que Desjardins a commencé le bal, puis il faut en parler. Ben, comme même je disais hier dans l'autre podcast, le 120, ben ça, c'est les brèches qu'on connaît, qui détectent, qui voient. Tu sais, l'industrielle Alliance avec 3 personnes qui se sont faites ficher. Des personnes qui se font ficher dans des entreprises au Québec, c'est à tous les jours, puis c'est des centaines, là, c'est pas 3, là. Puis chez l'industrielle Alliance, il y en a détecté 3, c'est parce que c'est sûrement 3 à la semaine. Et c'est comme ça au gouvernement, puis au privé, puis partout, même dans les compagnies qui savent ce qu'ils font, là. C'est l'attaque la plus populaire.
Ah, mais en même temps, c'est drôle parce que le bal est parti avec Desjardins et Desjardins a mis la barre très, très haute en termes de qualité de communication, gestion de crise, leadership. La barre est très haute. Puis on voit à quel point c'est peu d'organisations qui ont ce degré de maturité d'être capable de gérer puis, leadership.
Peu, là. Nick, là, ils ont eu 6 mois pour se préparer. J'espère qu'ils sont bons après 6 mois de préparation.
La faille de l'actualité, c'est 2016.
Ça ne s'en souvenait plus, excuse-les. Là.
Il ne le savait pas. C'est vrai que Desjardins a eu un 6 mois d'avance, mais on a vu plein d'entreprises qui l'ont su beaucoup d'avance puis qui se sont tirées dans le pied pareil. Pas au Québec, là, mais aux États-Unis. Mais ça reste que la barre est haute, oui, mais c'est de la logique de faire de la communication comme ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas en tirant sur le messager que tu vas te faire une bonne presse. C'est plate à dire. Oui, oui, oui. Mais c'est ça. Comme on dit, il va y avoir une suite à ça. J'ai hâte d'avoir la suite parce qu'en plus, puis là, on en parle de plus en plus avec les brèches, mais l'entreprise est responsable de ses données puis des données de ses clients. Fait qu'il faut que l'actualité fasse quelque chose avec ça. C'est bien beau écrire à tout le monde, blablabla, vous vous êtes fait avoir puis on ne vous dit pas vraiment sur quoi. Puis je vous offre rien puis on ne fait rien, là.
Ouais, exactement, parce que sur les médias sociaux, là, je réclamais que les victimes, au moins, se fassent donner un programme de surveillance de dossier de crédit, donc Equifax ou TransUnion, au moins 5 ans, encore là, pour être à l'équivalent de ce que Desjardins a offert. De cette approche-là, faut qu'ils soient avisés, les gens, pour qu'ils puissent prendre action, ça c'est clair. Mais fondamentalement, ce qui est dommage là-dessus, puis Nick, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le commissaire d'accès à l'information au Québec, encore une fois, il est muet. On n'entendra pas parler cette gang-là de quoi que ce soit, parce qu'au Québec, c'est totalement indépendant du commissaire de la vie privée du Canada, qui eux autres aussi, je crois, vont rester muets, même suite à ce qui l'annonce qui était parue, donc du 1er novembre 2018. Les organisations assujetties à la loi de la protection des renseignements personnels et documents électroniques devront déclarer au commissaire à la protection de la vie privée du Canada, les atteintes et aux mesures de sécurité, aviser les intéressés au sujet de ces atteintes et conserver un registre de toute atteinte. Ah! Fait que, il n'y a pas rien qui force à le faire. C'est encore là une obligation volontaire. Et si ça leur tente, OK, ils vont participer à être bons citoyens corporatifs. Ils vont donner ça, le registre, ils vont en consigner un. Mais autrement, c'est encore une fois du wishful thinking, malheureusement.
Ouais, ben, c'est c'est le plus grand absent de la conversation qu'on a, de toutes les failles qu'on a eues cet été. Les deux commissariats à la vie privée fédérale étaient un peu plus actifs, mais quand même, il aurait pu l'être davantage. Puis celui au Québec, à part le fait qu'il y a eu un article disant qu'il y a un recours particulier dans le cas de vol d'informations ou votre cas de fraude personnelle qui a des manœuvres, c'est une belle chose, mais c'est très, très faible en termes d'action et en termes de choses. Est-ce que c'est parce que leur cadre législatif est insuffisant pour nous aider à les aider à aller plus loin? Est-ce que c'est parce qu'ils ont oui. manque de leadership eux-mêmes? La question se pose.
Ben, la question est posée, c'est certain, mais à la base, tu sais, savais-tu, ça fait 25 ans qu'il existe. Puis quand j'en parle avec des personnes, la majorité des gens ne savent même pas que c'est un organisme québécois qui existe et qui peuvent, à ce moment-là, lui aider. Je lui donne des références, dis allez voir, lisez qu'est-ce qui est marqué là, vous allez comprendre c'est quoi les obligations, les lois qui sont en fonction.
Mais ils n'ont jamais été publiquement actifs au Québec. Non. Ils n'ont jamais pris les devants, parlé dans les médias, puis tu sais, embarqué sur un gros cas. Oui, ils en ont fait, là, mais je veux dire quelque chose de gros comme Desjardins.
C'est là, Nick, ça confirme qu'ils n'ont pas de leadership. Là, je te suis dans l'idée.
Mais là, je vais faire une parenthèse, puis féliciter un, puis bastonner l'autre. Dans les débuts des premières années du Hackfest, on avait sollicité en premier lieu le commissariat à la vie privée du la CAI, dans le fond, accès à l'information du provincial. On a eu une fin de non-recevoir. On s'est tourné vers le fédéral et se sont dépêchés à nous envoyer quelqu'un pour venir présenter au Hackfest. Fait qu'il y avait, c'est moi qui avais fait la démarche dans deux cas, puis j'ai été fasciné à quel point on était dans deux univers complètement différents, dans un qui ne voulait pas être dans la sphère publique, puis l'autre qui était beaucoup d'efforts de promotion. Le fédéral a fait beaucoup plus. C'est sûr qu'au Québec, on a comme une forme d'étanchéité et ça. J'imagine que dans l'extérieur du Québec, on est un peu plus visible qu'au Québec, mais il y a quand même une volonté intéressante de sensibiliser les gens. Est-ce que ça réussit de ça, c'est une autre histoire?
Oui, puis mais... même, tu sais, on les a reçus plus qu'une fois, là. Puis Québec, ils sont jamais venus. c'est dommage. Puis, tu sais, en même temps, il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose pour vrai, là. Pas juste la commission à la vie privée, mais la loi de divulgation, je pense que c'est le temps là, qu'ils la mettent en place comme il faut, parce que là, elle est très, très, très volontaire. Elle n'est pas active. Puis même si les entreprises commencent à divulguer, ça veut pas dire qu'ils divulguent tout ce qu'ils voient de brèches puis de vols dans leur infra. Là. Que...
Mais je crois, Pat, aussi, ben, vous allez rencontrer le ministère vous aussi bientôt, mais je vois qu'il y a une ouverture quand même de ce gouvernement avec lequel ils veulent justement faire les bonnes choses de l'avant et il y a un réel vouloir de travailler ces problèmes-là en amont au lieu d'attendre qu'ils réagissent. Tu vas le voir, en tout cas, là, dans ta rencontre, là, moi, j'étais très satisfait. Puis j'entends qu'ils veulent avoir des solutions. J'entends qu'ils veulent mettre l'épaule à la roue pour changer les choses et non pas laisser ça comme ça. De tout ce que vous avez vu, vous autres, au gouvernement du Québec, là, ben, ils veulent changer ça, cette perspective-là, perception, c'est-à-dire, et la perspective que c'est un laisser-aller. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est capotant.
Non, c'est sûr, mais c'est plus que du vouloir qu'il faut. Il faut qu'ils mettent les choses en place. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir si ça va arriver. On en entend beaucoup de choses qui a de l'intérêt, mais peu de mise en place. Puis c'est là, c'est aujourd'hui qu'il faut, je pense que le timing est très bon. Là. Puis je pense que c'est là qu'il faut que ça se fasse. Comme tu dis, les bons joueurs, toute la situation, malgré que la situation est mauvaise à cause des leaks, mais à cause de tout ça, le timing fait que c'est le moment de faire les choses comme il faut.
Faut que les babines faut que les bottines suivent les babines, n'est-ce pas? Et comme on est on va terminer sur une réflexion, parce que là, on est quand même au moment où on enregistre en campagne électorale fédérale. J'imagine que la protection de la vie privée va se présenter dans le chose. Quelles sont, dans le fond, vos réflexions par rapport à ce que le futur gouvernement fédéral devrait mettre de l'avant par rapport à ça?
Ben, d'un premier ordre, Nick, faut qu'il donne un peu plus de pouvoir au commissariat à la vie privée du Canada, parce que là, c'est le ministère, on parle des élections fédérales. D'avoir un pouvoir d'accusation. Donc, avoir une équipe judiciaire avec lesquelles ils vont produire le rapport, puis ils vont pouvoir, à ce moment-là, appliquer une loi et faire comme aux États-Unis, faire comme en Europe avec le RGPD, et après ça, vraiment adresser avec une loi sévère les contrevenants, les négligents des données personnelles et après ça, faire changer l'attitude des compagnies face à la conservation des données personnelles. Parce que présentement, le Canada est vraiment le paradis des fautes électroniques et des fautes informatiques parce qu'il n'y a jamais de conséquences. Et les compagnies le savent, ils vont bâtir des centres de données, ils vont arriver des « oups » électroniques puis il n'y aura jamais de conséquences. Ici, c'est fantastique, c'est le Walt Disney. Alors qu'en Europe, ben ils se font varloper, mais pas à peu près. On l'a vu avec Facebook, on l'a vu avec British Airways, puis d'autres grosses compagnies comme ça. Puis il y a des choses que c'était. Dans mon cas, je voyais British Airways, c'était quand même de petite amplitude. Mais tabarouette, ils se l'ont fait servir. Et encore là, c'est pour faire réfléchir les autres, pour qu'ils puissent prendre connaissance et surtout s'assurer que ça arrive pas, ou du moins diminuer. Parce que comme tu dis, Nick, ça va arriver encore, c'est normal encore parce que. Les systèmes sont poreux, les systèmes sont pas sécurs, les systèmes sont mal entretenus. Fait que oui, il va en avoir d'autres. Mais il faut amener justement les organisations à faire le travail nécessaire pour réduire ce risque-là et que ça donne quelque chose de bien. Fait que moi, j'anticipe qu'on peut faire demander ça aux partis qui s'impliquent et le prochain gouvernement, il pourra au moins rehausser cette capacité-là au commissaire à la vie privée.
L'autre point, mais je pense que c'est le temps qu'on se débarrasse du NAS, là, s'il vous plaît. C'est le temps de mettre en place une identité numérique. Je veux dire, avec toutes les brèches qu'il y a eu, je pense que la preuve a été faite comme quoi que le changement est dû. Un numéro des années 60 est vraiment plus adapté aujourd'hui. J'ai aucune idée, par exemple, si les élections vont vraiment embarquer sur les trucs numériques. Présentement, il n'y a pas grand-chose. Mais le timing serait bon. Mais on verra bien ce que ça donne.
Ben, merci, messieurs. C'est un autre, dans le fond, double brèche qu'on a vécu. Je pense qu'on va en avoir d'autres. Je pense qu'on va se revoir encore beaucoup trop, peut-être trop régulièrement, je dirais, pour parler de ce genre de choses-là. Mais bref, il faut en discuter, il faut sensibiliser, puis en espérant que nos conversations amènent dans l'espace public, fassent avancer la discussion et fassent avancer la protection de nos informations. Merci.
Ciao, bonne fin de soirée.
À la prochaine brèche.